la matinale de 19h. Le magazine de société de Radio Campus Paris. L'actu engagée.
Un petit village antifasciste vers la Sorbonne.
La culture décalée.
J'ai découvert ses albums et j'ai pété une pile.
Les sujets étudiants.
Pour moi, la démocratie étudiante, elle se fait dans les AG, dans les mobilisations.
Et ce qui se passe en Ile-de-France.
Le but, c'était en fait de préserver les terres agricoles autour de la capitale.
Du lundi au jeudi, de 19h à 20h, sur Internet, sur le DAB+, et sur le 93.9 FM.
Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans cette matinale spéciale en non-mixité. Moi c'est Alice et pour ma première présentation, je suis ravie de partager l'antenne uniquement avec des femmes ce soir. Et oui, depuis lundi, Radio Campus Paris met à l'honneur le féminisme et celles qui le font vivre au quotidien. Parce qu'à l'approche du 8 mars et de la Journée internationale des droits des femmes qui a lieu ce dimanche, il est plus que nécessaire de continuer la lutte encore et encore. Dans un contexte géopolitique mondial extrêmement guerrier et incertain, une extrême droite menaçante à l'approche des municipales en France, le retour en force largement affirmé des masculinistes sur les réseaux sociaux et dans la vraie vie, et des féminicides toujours plus nombreux partout dans le monde, les droits des femmes sont en danger. Alors ce soir, je voudrais rendre hommage à ces femmes justement qui ont lutté hier et à celles qui luttent aujourd'hui, parfois au péril de leur propre vie. Je veux rendre hommage à toutes celles qui osent se questionner, douter, remettre en question, dénoncer, porter plainte, celles qui ont le courage de parler, faire face à leur agresseur lors d'un procès, celles qui applaudissent d'autres femmes, celles qui collent des messages dans les rues la nuit, celles qui chantent, entreprennent, créent, font face à des préjugés et des remarques sexistes dans leur travail, celles qui dirigent, donnent la parole aux marginalisés, accompagnent les plus vulnérables et celles qui gagnent face à ceux qui nous méprisent ou nous détestent. Bravo et merci à vous toutes pour votre engagement et votre résistance au quotidien. Cette lutte féministe ne pourra jamais se gagner seule, au même titre que les luttes contre le racisme, le dérèglement climatique et le fascisme. Ensemble, soyons plus fortes et forts pour imaginer une société plus juste, plus équitable, plus sensible et plus inclusive. Au sommaire de cette matinale, nous accueillons Hélène et moi-même Catherine Larère, philosophe et professeure émérite à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, pour parler d'écoféminisme, un sujet qui suscite de plus en plus d'intérêt mais qui fait aussi souvent débat. Catherine Larère est l'autrice d'un ouvrage publié aux éditions La Découverte qui porte ce nom d'écoféminisme. Ève retrouvera une autre Ève, et pas celle d'Adam, loin de là, non, Ève Georges est souffleuse de verre, et on en apprendra plus sur son métier dans « C'est quoi ton taf ?». Iske sera aux manettes des recos du week-end, une sorte de flash info spécial féministe, et Hortense nous présentera 5 artistes contemporaines pour sa chronique actu, 5 femmes bien sûr. Je remercie d'ores et déjà Julie qui m'accompagne à la réelle ce soir.
La matinale de 19h, 93.9 FM.
On débute cette matinale avec une bonne dose d'écoféminisme. Pour en parler, j'accueille Hélène. Bonsoir. Bonsoir. Et notre invitée, Catherine Larère, spécialiste reconnue d'éthique environnementale et autrice d'un ouvrage sur le sujet. Bonsoir à vous.
Bonsoir. Alors, tu rappelais, Alice, qu'il y a beaucoup de féminicides. En ce début d'année, on en compte déjà 20 en France. En parallèle, en ce début d'année toujours, le directeur du service Copernicus sur le changement climatique de l'Union européenne déclarait que 2026 pourrait être une nouvelle année record en termes de chaleur si El Niño faisait son apparition. Et en matière de consommation d'eau, la planète est en faillite selon les Nations Unies. Des informations qui a priori n'ont pas tellement de rapport les unes avec les autres. Et pourtant, Catherine Larère, vous allez nous montrer que combat féministe et combat écologique peuvent avoir à voir l'un avec l'autre. Vous avez en effet, comme l'a rappelé Alice, publié des ouvrages sur la question et notamment en 2023 un ouvrage sur l'écoféminisme dans la collection Repères à la Découverte. Et donc on va revenir avec vous pour essayer de comprendre ce concept et puis de voir ce qu'il peut apporter dans les luttes contemporaines. Et je voudrais d'abord revenir, peut-être pour qu'on comprenne ce que c'est, au moment où émerge l'idée que l'écologie et le féminisme ont des choses à voir ensemble. Ça date des années 1970, c'est ça ?
Oui, c'est-à-dire les années 70, c'est les années où à la fois la question environnementale devient une question globale qui attire l'attention de l'international au très local, en passant par le national, donc où il y a le rapport Meadows. Et puis, c'est aussi les années du mouvement de libération des femmes. Et donc, l'écoféminisme naît à la jonction des deux, quand une femme, Françoise Daubonne, qui est une écrivaine extrêmement prolixe, qui a été toutes les luttes après la Deuxième Guerre mondiale. Elle a été au Parti communiste, elle en est sortie.
Elle est française, c'est ça ?
Elle est française, oui. elle est née en France. Bon. Et donc, elle arrive à l'activité, à l'âge adulte, au lendemain de la guerre mondiale. Donc, comme quantité de gens qui luttent à ce moment-là, elle rentre au PC et elle va lutter. Alors, c'est une féministe, c'est une grande admiratrice de Simone de Beauvoir, qui publie Le Deuxième Sexe dans les années 50. Hein, et donc, elle le soutient, elle écrit dans ce sens, etc. Quand émerge le mouvement écologiste, et en particulier quand celui qui sera le premier candidat écologiste à une élection présidentielle, René Dumont, publie L'Utopie ou la mort, qui est c'est très centré sur les questions démographiques. À ce moment-là, la question écologique est très liée à l'idée qu'il y a trop d'humains sur Terre. Et donc, elle va finalement faire converger féminisme et écologie en publiant en 1974 un livre qui s'appelle Le féminisme ou la mort. Donc elle reprend le titre à Dumont. Et c'est là qu'elle va lancer le terme d'écoféminisme, qu'elle va inventer le terme d'écoféminisme, par lequel elle va désigner la rencontre entre la domination des hommes du patriarcat, et en particulier la domination des hommes sur les ventres des femmes, sur la fécondité des femmes, et la domination capitaliste, largement masculine, hein, le capitalisme. Et donc l'idée que ce qui est en train d'être découvert comme ce qu'on va appeler la crise environnementale, et dans là-dedans converge une double domination masculine sur, si je peux dire, la fécondité de la terre et la fécondité des femmes.
Et est-ce que cette parole est entendue en France à l'époque ? Parce qu'on n'a pas l'impression qu'on ait beaucoup parlé de ça dans ces années 70.
Très peu. Alors, elle fera partie du mouvement de libération des femmes. Après, elle fera partie d'ailleurs des mouvements de libération du front homosexuel. Mais à ce moment-là, le mouvement féministe ne l'écoute pas. Hein, qui est un peu partagé déjà, à ce moment-là, entre universalisme et différentialisme. Elle ne rentre pas dedans. Elle essaie de mettre en place quelque chose. Elle essaie de lancer un mouvement. Elle va intervenir dans un congrès international. C'est sans le lendemain. Hein, ça, il y a pas d'écoute. Après, elle se reconvertira, mais on apprendra ça à sa mort, qu'elle a fait un attentat contre la centrale de Fessenheim en construction.
Hein. Alors, au même moment, on sait qu'il y avait un mouvement écologique important et dynamique qui se développait aux États-Unis.
Voilà.
Alors, j'avais une question. On sait qu'un livre fondateur qui est un peu plus ancien, le Printemps silencieux en 1962, avait été écrit par une femme, Rachel Carlson. Je ne sais pas si c'est un hasard ou pas, mais est-ce que déjà il y avait le germe aussi d'un intérêt écoféministe aux États-Unis ?
Alors, Printemps silencieux, Silent Spring de Rachel Carson a eu une importance énorme pour lancer la conscience écologique aux États-Unis.
Donc un livre dans lequel elle exprimait...
Alors, elle dénonce les faits de ce qu'on appelle aujourd'hui les phytosanitaires, hein, et qui étaient les pesticides, et ce qu'on appelait, moi j'ai vu ça dans mon enfance, hein, le DDT, alors ne me demandez pas la formule, je le dis, etc., mais qui était la façon de tuer les moustiques et autres insectes, et elle en montre les effets à la fois. Bon, pourquoi le printemps est silencieux ? Parce que les oiseaux ne chantent plus. Et pourquoi les oiseaux ne chantent plus ? Eh bien, c'est parce qu'il n'y a plus d'insectes à manger, ou qu'ils ont mangé des insectes empoisonnés par les pesticides et qu'ils en sont morts eux aussi. Donc, elle montre quelque chose qui a atteint la faune, la flore et la santé humaine.
Mais à ce moment-là, elle-même n'est pas du tout dans un combat féministe.
Alors, C'est quelqu'un qui a... Elle a jamais été mariée, à tel point que d'ailleurs, quand son livre est paru, un très proche d'Eisenhower a dit « Bon, elle est plutôt mignonne, elle est célibataire, elle doit être communiste. » Bon, c'était évident. Bon. Et en plus, elle a fait vivre très tôt sa famille, alors que son père était plutôt défaillant. Mais on ne peut pas dire qu'elle l'ait traduit en lutte féministe. Hein, c'est une D'accord. femme qui se bat, mais on ne peut pas dire qu'elle mette un lien entre sa cause écologique et sa cause féministe. Et donc, mais c'est une femme dont les femmes peuvent être fières, parce que franchement... en plus, elle a été très attaquée par les producteurs de DDT et autre chose du même genre. Et son dossier, alors c'est quelqu'un qui a fait des études supérieures mais qui n'a pas fait de recherche, et c'est sans doute lié au fait qu'elle est une femme et qu'elle n'a pas pu avoir accès au type d'enseignement supérieur et qui n'est pas mixte à l'époque, dans les années 40-50. Et donc... En fait, son métier, c'est un métier de documentaliste. Hein.
Et donc, on comprend bien que Rachel Carlson est une femme, mais n'est pas dans l'écoféminisme. Qu'ensuite, on a donc Françoise Daubonne en France en 1974. Et donc, à quel moment on peut dire que l'écoféminisme émerge comme un mouvement un petit peu connu, avec des militants et organisé
4-5 ans après le féminisme ou la mort, aux États-Unis, le mot... traverse l'Atlantique. Alors, est-ce qu'il est repris du français, ou il est très facile à inventer? Je dirais qu'il correspond beaucoup plus au génie de la langue anglaise qu'au génie de la langue française. L'anglais construit beaucoup plus ce type de mots valises au sens propre du terme. Et donc, il ressurgit à la fin des années 70 aux États-Unis. À un moment aussi, là aussi, où il y a à la fois un vaste mouvement de femmes, et en particulier dans les universités, et un mouvement écologique, et le plus grave accident nucléaire qui ait eu aux États-Unis, qui est celui de Three Mile Island en 1978 ou 79, je ne me souviens plus exactement. Mais tout ça va converger vers une manifestation qui a lieu à Washington en novembre 80, qui est préparé par une série de colloques et qui réunit quantité de mouvements féministes différents. Il y a à la fois les mouvements de libération des femmes...
Donc une sorte de convergence des luttes,
en fait. C'est une sorte de convergence des luttes, avec un mouvement extrêmement original. Emilia Hache a une écoféministe, une collègue à moi, a publié des textes, et une des dirigeantes de cette manifestation de Washington a un petit texte où elle dit... À votre manif, si on n'y danse pas, j'y vais pas. Et donc, c'est ces manifs qui sont pas des moyens au service d'une femme, mais qui sont des fins en elles-mêmes. Parce que les femmes s'y rencontrent, elles dansent, elles communiquent des choses. Et donc, c'est une forme d'affirmation de...
Et alors, à ce moment-là, on voit bien donc commence à s'associer ce féminisme et cette écologie. Mais est-ce qu'il y a déjà des... après Françoise Daubonne, des penseuses qui vont théoriser ou qui vont apporter, et qu'est-ce que ça va apporter justement au mouvement écologique d'avoir cette nouvelle approche?
Alors, ce que je crois, c'était un des fils conducteurs du livre que j'ai publié à la découverte, c'est que l'écoféminisme, c'est d'abord une série de mouvements qui convergent. Il y en a au nord, il y en a au sud. Bon, quelqu'un qui est très connu, qui est Vandana Shiva, se lance dans la lutte dite Chipko de femmes en Asie du Sud-Est, en Inde, pour empêcher qu'on abatte les arbres. Hein. Chipko, c'est elles embrassent les arbres. C'est une vieille tradition indienne. Donc, elle se fait connaître là. Et comme quand on est anglais, quand on a fait des études supérieures, on parle anglais, donc elle va parler elle aussi d'écoféminisme. Hein. Mais il y a le mouvement au Kenya, il y a le mouvement de Wanga Mutamathai qui rassemble là aussi des femmes sur une ceinture verte. Donc il y a quantité de mouvements qui associent toujours des femmes sur des questions écologiques et où on ne, les femmes ne sacrifient ni l'un ni l'autre. C'est-à-dire qu'elles, ce sont des luttes de femmes pour les femmes, mais sur des questions écologiques.
Mon interrogation,
donc, il n'y a pas de doctrine. Alors, à partir de là, ça fait énormément réfléchir. Donc, il y a une circulation d'interrogations. Mais on ne peut pas dire qu'il y a une doctrine, comme on parle du marxisme. Ou, voilà. C'est là-dessus que je voudrais insister.
Non, vas-y, juste une dernière question avant la première pause musicale.
Oui, pour rester dans la partie historique, dans tous ces moments, donc vous dites bien que c'est des femmes qui militent pour l'écologie, mais on ne voit pas bien ce qu'elles apportent de spécifique que n'auraient pas pu apporter des hommes. En dehors du fait qu'elles sont des femmes et que c'est elles qui militent, est-ce qu'elles apportent quelque chose de nouveau à l'écologie dans le contenu ?
Tout à fait, parce qu'elles se mobilisent à partir de leur vie même. Vous avez tout un mouvement qu'on a appelé de justice environnementale aux États-Unis, qui rassemble des femmes sur des questions de qualité de vie et de mode de vie, de vivre dans des endroits pollués, ou bien où il y a des projets de mettre des usines d'incinération. Et elles se mobilisent. Alors, des fois, c'est pas toujours des mouvements exclusivement féminins. Mais qui est-ce qui est en charge du foyer, finalement, des enfants, hein ? C'est les femmes. Et les hommes, autant il y a une tradition de lutte des hommes sur leur lieu de travail, elles se mobilisent sur leur lieu de vie. Et c'est ça qu'elles apportent, ce type de lien du social et de l'environnemental, là où elles vivent.
Merci, on continue de décortiquer les enjeux de l'écoféminisme juste après la pause musicale. Ce soir, dans vos oreilles, c'est Seabed Eden, Dichiko Aoba et Pomme.
Savoir ce qui m'attend, ni
C'était Seabed Eden, Dishiko, Aoba et Pomme. Vous êtes à l'écoute de la matinale de 19h sur Radio Campus Paris.
La matinale de 19h, le magazine de société de Radio Campus Paris.
Tout de suite, on retrouve avec Hélène notre invitée, Catherine Larère, philosophe et professeure émérite. On se questionne sur l'écoféminisme.
Alors, vous nous avez parlé dans une première partie de l'émergence de cet écoféminisme. Si on passe maintenant à la situation contemporaine, quelle place ça occupe aujourd'hui dans les luttes pour l'environnement? Est-ce que c'est important, le mouvement écoféministe ou les mouvements écoféministes?
Oui, il y en a partout. Il y en a partout. Alors, c'est revenu en Europe par le biais des... En 2015, quand il y a eu la COP21, la réunion du climat à Paris, au Bourget, la précédente, celle qui comptait avant à Copenhague en 2009, ça s'était mal passé. Il y a eu de grandes manifestations dans toutes les grandes métropoles du monde, que ce soit en Australie, à New York, etc. Et il y a eu des présences de groupes écoféministes dans ces mouvements. Et avec ça, c'est passé en Europe. Ça se développe par exemple en France. Après 2015. Moi, je me souviens, en 2012-2013, à ce moment-là, j'étais en train de devenir présidente de la Fondation d'écologie politique qui venait d'être fondée.
Donc une sorte de think tank
d'Europe Écologie Les Verts. Et il y avait un journaliste qui était là, et j'ai fait une allusion à l'éco... Et un journaliste connu, de questions écologiques. Et j'ai fait allusion à l'écoféminisme. Et il est venu m'interroger après, c'est-à-dire qu'il ne connaissait pas. Donc en gros, en 2012-2013, c'est pas connu en France. C'est au moment de la primaire avant la deuxième présidentielle de Macron qu'il y a eu que Delphine Bateau, Sandrine Rousseau sont mis à parler d'écoféminisme. Elles sont dites écoféministes. Ça s'est répandu en France entre les deux, entre 2012 et 2022. Et un peu partout en Europe, alors qu'il n'y en avait pas. Il y en a en Amérique du Sud. On n'est pas au courant, mais il y en a en Chine. Il y en a dans les anciens...
Oui, donc on voit un mouvement international
est
très
mouvement,
actif.
Oui, si vous voulez, il n'y a pas de parti. Il n'y a pas d'organisation mondiale. Donc c'est une série de mouvements et il y en a.
Est-ce que le risque de parler d'écoféminisme, ça serait d'avoir une vision genrée de l'écologie, où aux femmes, il y aurait une sorte de care de la planète, si j'ose dire et est-ce que vous avez quelque chose à dire là-dessus?
Oui, tout à fait. Alors, c'est ce que dit... il y a une historienne et spécialiste des questions d'environnement qui s'appelle Caroline Merchan, qui a publié très tôt, en 1980, un livre où elle montre comment émerge à la fois la révolution au XVIIe siècle, la révolution scientifique, Galilée, Newton, Descartes, le capitalisme, d'autres rapports, et le sort des femmes et l'histoire des sorcières, en gros. Bon, elle montre le lien. Et à partir de là, elle a beaucoup écrit sur ces questions. Et à un moment, elle dit, oui, au fond, on va dire, les femmes, elles vont nettoyer la planète comme elles nettoient chez elles quand les hommes ont fait des... Quand les hommes ont fait des saletés, quoi. Alors, il y a toujours des récupérations possibles. Bon, c'est pas ça.
D'accord. Et on voit bien l'articulation des formes de domination, domination patriarcale sur le monde, domination patriarcale sur les femmes. On pourrait aussi croiser...
On peut rajouter le colonialisme.
Exactement. Donc ma question, c'était, quand on parle d'écoféminisme, on pourrait parler d'éco beaucoup de choses. Il y a beaucoup de formes de domination, que ce soit du nord sur le sud, des peuples dominés sur d'autres peuples, etc. Est-ce qu'il ne faudrait pas ouvrir l'écoféminisme à tous les types de domination?
Il est ouvert. Alors si j'emploie un mot qui va me provoquer peut-être des critiques, il est intersectionnel, c'est-à-dire qu'il réunit, et dans ce livre rassemblant des articles qui s'appelle Reclaim que Emilia a traduit en France et qui a fait beaucoup pour rendre c'est traduit vers 2015-2016, eh bien, on voit à la fois donc aux États-Unis, bon, ben, les minorités ethniques, donc il y a cette rencontre de toute une série d'oppressions qui se coagulent, si je puis dire, autour d'une série de luttes. Ce qui fait aussi, parce que bon, on se dit, il y a parmi les idées qui circulent sur l'écoféminisme, ça serait une façon de naturaliser les femmes. Mais non, parce qu'il y a de l'écoféminisme queer, hein, il y a de l'écoféminisme. Donc, de ce point de vue-là, ça, c'est multigenré, et c'est absolument pas, ça essentialise pas une nature féminine.
Donc si je vous comprends bien, en fait, l'écoféminisme, c'est une manière de penser les questions environnementales et écologiques sous l'angle de domination, donc sous l'angle de système organisé de domination, et pour intégrer comme ça une nouvelle vision de cette écologie.
Oui, si vous voulez, c'est-à-dire c'est une façon de faire surgir des questions là où on les voyait pas surgir, hein, le fait que en gros ce qu'on appelle les inégalités environnementales, c'est-à-dire que tout le monde souffre, personne sur Terre n'échappe au changement climatique, à l'érosion de la biodiversité, etc. Mais certains en souffrent beaucoup plus que d'autres, et ceux qui souffrent le plus, généralement, c'est ceux qui y sont pour le moins, hein, qui y ont moins participé. Donc, et en particulier, il y a un effet genré des changements climatiques. Et ça a été montré, il y a des statistiques de l'ONU ou de l'UNESCO qui montrent que les femmes souffrent plus du changement climatique que les hommes. Donc, ça fait apparaître ces effets-là qui n'apparaîtraient pas sinon.
Et est-ce que... Pardon.
Non, vas-y. Je me demandais juste, est-ce que c'est pas un peu hypocrite de la part de certains hommes ? Je sais pas pourquoi, ça me fait penser à Donald Trump qui pourrait, je l'ai pas demandé personnellement, mais je pense pas qu'il porte dans son cœur les écoféministes.
Oh non, sûrement
pas. Pour autant,
pas.
Il c'est pas un grand défenseur de la nature, donc je trouve que ça paraît un peu hypocrite de... c'est pas comme si d'un autre côté ils voulaient sauver la planète, du coup pourquoi se taper encore plus sur ces femmes,
c'est des femmes qui manifestent, c'est des femmes qui font apparaître que les hommes qu'il y a une certaine façon genrée, masculine d'en rajouter, et qu'ils n'aiment pas ça.
Et est-ce que certains considèrent comme si c'était une dépossession pour eux de la nature, vu qu'on vous avez dit tout à l'heure que souvent ce sont les hommes avec un petit H qui vont détruire la planète et c'est les femmes qui vont entre guillemets la réparer. Est-ce qu'il y a un sentiment de dépossession pour ceux qui critiquent ces écoféministes ?
Non, je crois que si vous voulez, dans les ce qu'apporte l'écoféminisme, c'est que le côté à la fois éco et féministe dans l'écoféminisme, c'est bon. On a l'idée, alors laissons Trump si vous voulez parce qu'il est un peu caricatural, mais on a l'idée que la question climatique elle est prise en main par des scientifiques, plus des politiques, et entre les deux des techniciens. Hein, si vous invitez Jean-Marc Jancovici, il va vous expliquer qu'il faut construire des centrales nucléaires, etc. Parce que, bref, bon. Ce que montre l'écoféminisme, c'est un lieu complètement différent des luttes, qui est, on lutte pour être dans un milieu de vie qui soit vivable. Donc ça passe pas par un savoir scientifique. Et de ce point de vue-là, bon, on sait très bien qu'il y a pas de masse de femmes prix Nobel, mais il y en a. Hein. Mais quand les femmes, ça a un côté, regardez, il se passe autre chose qu'entre des experts climatiques et des politiques.
Et justement, elles sont écoutées par les mouvements environnementaux en général, pas spécifiquement féministes. Justement, est-ce qu'ils sont touchés par ce mouvement écoféministe ? Est-ce qu'ils le prennent en compte ? Est-ce qu'ils s'associent ? Ou même, est-ce que dans les rapports du GIEC, par exemple, il y a une écoute de ces mouvements ?
Alors, c'est deux mondes complètement différents, hein, et c'est pas uniquement une question d'hommes et de femmes. C'est, on peut dire que vraiment, alors moi ça plus ça fait longtemps que je travaille là-dessus. Plus je travaille là-dessus, plus ça me frappe à quel point il y a une écologie d'en haut, hein, où il y a d'ailleurs des hommes et des femmes. Enfin, bon, il y a une écologie d'en haut qui est ces grands plans mondiaux qui descendent jusqu'en bas, en passant par les États, la rencontre des scientifiques, la collecte de données. Et puis, il y a une écologie d'en bas. Il y a un livre dont j'aime bien le titre, qui parle de réparer la Terre par en bas. Hein. Ben, on cherche à la fois à réparer la Terre par en haut, ça marche pas terrible, et il se passe des choses en bas, et quand on fréquente ce genre de les gens qui luttent, ben, ils appellent pas ça forcément écologie, c'est ça un peu le problème.
Moi j'avais une question, parce que vous parlez effectivement d'intersectionnalité, et on parlait tout à l'heure des différents, on va dire, formes peut-être de domination d'écologie et sur l'écologie et sur le féminisme. Et je pensais par exemple au chlordécone, par exemple aux Antilles. Est-ce qu'on a aujourd'hui, ma première question c'est, est-ce qu'on a aujourd'hui des résultats ou des études qui montrent que ce type d'insecticides touchent les femmes et les hommes, enfin, parce qu'on revient, celles qui manipulent la terre aussi, ce sont des femmes. Et est-ce qu'il y a des luttes qui existent aussi au sein des communautés françaises et ultramarines, enfin métropolitaines, et ultramarines.
Ultramarines, puisque du chlordécone, il n'y en a pas en France, et qu'il a été autorisé aux Antilles alors qu'il était interdit en France. Alors bon, le chlordécone, on parle toujours du cancer de la prostate des hommes. Alors ça n'atteint pas les femmes. Bon, c'est pas, si vous voulez, j'en sais rien. Hein. Je sais pas, je peux pas vous citer des chiffres. Ce qu'il y a, c'est que qui est-ce qui vit le plus sur place ? Parce que c'est ça la distribution des rôles sociaux, ce sont les femmes.
Ouais.
C'est ce qu'on peut dire de façon générale. Mais je vous dis, j'ai pas des stats.
Il y a pas de, il y a pas de stats.
Il y en a sans doute, mais okay. Bon.
Merci beaucoup Catherine Larère et Hélène pour cette interview un peu plus éclairante et Eve pour cette question. On poursuit avec les recos du week-end.
Le flash info de la matinale de 19h.
Et c'est Iske qui nous détaille tout ce qu'il se passe ce dimanche à l'occasion de la Journée internationale des droits des femmes. Salut Iske.
Salut. La Journée internationale des droits des femmes s'approche et Paris propose plusieurs activités pour la célébrer. On commence par la Rêve féministe, une mobilisation où des associations féministes, des syndicats et des citoyens se rassemblent pour dénoncer et rendre visibles différentes formes d'inégalités, comme le patriarcat, le racisme, l'antisémitisme et l'islamophobie. L'accent est également mis sur les résistances des femmes à travers le monde face au impérialisme et à la montée des extrêmes droites, en revendiquant la grève comme un outil de force et de solidarité collective. La journée débutera par un village féministe sur la place de Stalingrad de 11h à 14h, d'où partira ensuite la mobilisation. Aussi, il y aura un défilé de motards organisé par la Fédération française des motards en colère. Cet événement aura lieu ce dimanche à 14h sur l'avenue Foch et parcourra des routes emblématiques du centre. Si l'idée te plaît, il te suffit de venir avec ta moto ou ton vélo car c'est entièrement gratuit. Dans la continuité des activités en mouvement, une course solidaire aura lieu à partir de 20h au parc floral pour soutenir la lutte contre les femmes, les violences faites aux femmes. Il s'agit d'une course en relais pour laquelle il faut former des équipes de 5 à 10 personnes afin de collecter des dons. En plus, la Ligue Île-de-France de judo organise une matinée de pratiques sportives ouverte à toutes. De 9h30 à 12h30 au centre sportif de Rosa Park, l'événement proposera un atelier de self-défense, une table ronde autour de l'égalité des femmes-hommes dans les sports et un cocktail. Si tu préfères quelque chose de plus calme, Expo 13 propose pour la 10e fois une exposition artistique en plein air. 20 artistes peindront en direct sur le thème « Femmes qui ont marqué l'histoire ». En plus, il y aura des concerts, des ateliers gratuits, des stands de nourriture et des marchés. L'événement aura lieu du 7 au 8 mars et l'entrée est gratuite. La mode est autre pilier qui ne peut pas manquer. Le collectif Débordeuses propose du vendredi au dimanche à la cité maraîchère divers ateliers gratuits autour du textile, allant de la broderie subversive à la culture upcycling. Mais ce n'est pas tout. Des ateliers de cuisine, d'écriture ainsi que des performances théâtrales seront également au programme. De même, le château de Versailles rend un hommage aux femmes avec plusieurs visites guidées, consacrées aux femmes influentes de l'histoire française. Et le château sera illuminé en violet à partir de 18h30. Pour les scientifiques, il y aura également des expositions de physique, astronomie, biologique, mathématiques et informatique des femmes. À l'Étincelle, avec des entrées de 5,50 €. Enfin, tu peux prolonger la soirée du dimanche avec un concert de catalane Sylvia Pérez Cruz à Olympia.
Merci beaucoup, Esquie, pour toutes ces recommandations. Je vous donne rendez-vous dans quelques minutes, juste après Enfadadas de Tetas Frias. C'était Enfadadas de Tetas Frias. Il est 19h39, vous êtes toujours à l'écoute de la matinale sur Radio Campus Paris.
La matinale de 19h, le magazine de société de Radio Campus Paris.
Et maintenant on accueille Hortense au micro de Campus. Salut Hortense.
Salut.
Ce soir tu nous présentes 5 femmes artistes contemporaines.
Et oui, aujourd'hui dans les écoles d'art, près de 70% des étudiantes sont des femmes. Pourtant, dans les expositions, on est encore loin de voir 70% d'artistes femmes accrochées au mur, même si, j'avoue, les chiffres évoluent un peu. Alors pour cette émission spéciale non-mixité, j'avais envie de donner un peu de force à des meufs et surtout de faire découvrir des artistes contemporaines qui m'ont particulièrement touchée cette année. Petit disclaimer tout de même, ce choix est totalement subjectif. Ce n'est pas une sélection de militantes à proprement parler, même si évidemment leur travail est traversé par leur expérience de femme. J'en ai donc choisi 5, dont un duo, du sérieux à l'ironique et du réel à l'onirique. Pour commencer, je vous présente Morgane Ellie, diplômée des Beaux-Arts de Nancy, puis de Paris, elle travaille le bois gravé. Concrètement, elle prend des plaques de contreplaqué et grave des images à partir de milliers très minuscules. Ses sources sont extrêmement variées. Les tags qu'elle croise dans Paris, des images orientalistes représentant des hôtesses japonaises idéalisées dans leurs intérieurs, des photographies pornographiques, mais aussi des références à la pop culture, par exemple Grey's Anatomy. Elle superpose parfois ces images, les fait se rencontrer, parfois se contredire aussi. Au final, ce qui pourrait être une image instantanée, presque banale, devient une œuvre technique d'une grande précision et qui a pris littéralement des heures à être créée. Elle était exposée cet hiver à la galerie Prima. Dans un univers très différent, il y a Ninon Enea. Son travail est nourri par la culture internet, une esthétique enfantine et plus largement la culture populaire. Elle réalise des installations, des sculptures, des cadres dans lesquels elle insère même des mèmes, pas même, et des images trouvées. Personnellement, son travail me touche beaucoup. Il plonge dans l'univers girly des années 2000. On y retrouve par exemple des pet shops, des couleurs très vives, quelque chose de très familier, presque nostalgique. Mais en même temps, il y a un léger décalage. Les œuvres sont volontairement imparfaites, un peu fragiles, presque maladroites, et c'est précisément ce qui les rend touchantes. Son travail redonne de la valeur à une esthétique souvent méprisée par le monde de l'art, alors qu'elle fait pourtant pleinement partie de notre imaginaire collectif. Troisième proposition, le duo Caroline Delieutraz et Victoire Marion Monéger. Elles créent des vêtements sculptures à partir de vestes récupérées. Ces vestes sont transformées par la couture, l'impression et parfois l'intelligence artificielle. Les tissus sont souvent irisés et matelassés. Ils évoquent des carapaces d'insectes, des coquilles, des enveloppes à la fois protectrices et fragiles. Leur travail parle de mue, de transformation, mais aussi de circulation des images et des objets à travers la réutilisation et surtout du lien entre le corps, le vêtement et le monde animal. Elle nous rappelle qu'un objet change complètement de sens selon le contexte dans lequel on l'utilise. Et pour finir, Lou Thiébaut. Diplômée de l'École nationale supérieure de la photographie d'Arles, elle capture avec des photos des souvenirs d'enfance. Dans ses photographies, on retrouve le monde du spectacle, le catch, le cirque, les paillettes, la lumière. Tout est là pour provoquer émerveillement et excitation. Elle saisit les instants de spectacle saisissant tout en allant en coulisses nous révéler de nouvelles réalités. Mais ce n'est pas tout. Elle crée aussi des masques, puis met en scène des personnages qui les portent dans des situations tout à fait ordinaires. Et c'est là que quelque chose d'étrange apparaît. La rencontre entre l'absurde et le quotidien produit une atmosphère presque surréelle et parfois inquiétante. Comme un rêve un peu bizarre dont on se souvient au réveil. Entre le souvenir et le rêve, Lou Thiébaut explore une part très intime de nous-mêmes, celle qui touche à l'enfance, à l'onirique et à l'innocence. Voilà pour ce petit panorama. Ces artistes vous intriguent et j'espère que c'est le cas, vous pouvez aller voir leur travail directement sur Instagram. Morganelli, Ninon Enea, Caroline Delieutraz et Silicon Child. Ces références seront également dans la description du podcast sur radiocampus.org. Et bien sûr, pour la fin de semaine, bon 8 mars et bonne lutte.
Merci beaucoup Hortense de nous avoir fait découvrir ces 5 artistes. On poursuit cette matinale avec une interview un peu différente. Ce soir, Eve nous fait découvrir le métier de souffleuse de verre avec son invité Eve Georges et Augustine aussi nous a rejoint. Bonsoir à toutes les trois.
Bonsoir.
Mais dis-moi, c'est quoi ton taf ?
Deux jeudis par semaine dans la matinale de 19h.
Bonsoir Eve.
Bonsoir.
On va parler de votre métier qui est donc souffleuse de verre, qui est un peu un métier un peu atypique ce soir. Et on va le faire en compagnie d'Augustine qui nous accompagne et qui va avoir quelques questions à vous poser. Donc je vais laisser la main à Augustine pour commencer.
Comment avez-vous découvert ce domaine ?
Alors j'ai une première formation de designer, donc je suis artiste moi aussi et j'ai eu une opportunité assez incroyable de faire une résidence dans un atelier verrier. Et donc j'ai débarqué dans l'est de la France, dans un village qui s'appelle Meisenthal, et j'ai découvert cette ronde de verriers. Alors c'était que des hommes, mais ils étaient souffleurs de verre et je les vois mettre en forme cette espèce de lave incandescente qui sort des fours, pas tant avec leur souffle mais finalement beaucoup avec leurs gestes, et ça m'a fascinée immédiatement. Et je me suis dit quasiment tout de suite que ça allait devenir mon métier. J'ai partagé cette réflexion et pas grand monde m'a cru. Mais voilà, c'est comme ça que j'ai découvert ce métier. Et ben, spoiler, je suis devenue souffleuse de verre.
De quand date ce métier et est-ce que les femmes ont tout de suite eu une place dedans ?
Alors, ce métier date de... Alors, je vais dire la Rome antique parce que l'invention du soufflage, véritablement, le fait de mettre en forme des objets avec son souffle, c'est l'Empire romain. Mais en fait, il y a des productions de verre qui datent bien avant, notamment en Phénicie. Alors, est-ce que les femmes ont eu accès à ce métier ? Alors, là, pour le coup, je vais avoir des failles historiques, à mon avis, mais dans tous mes souvenirs de cours d'histoire de l'art, je n'ai jamais eu de mention de femmes. Aujourd'hui, en France, on est très peu de souffleurs et de souffleuses de verre, mais en tant que souffleuse de verre, on se compte sur les doigts d'une main. Voilà. Donc, non, aussi pour répondre très brièvement à la question.
Et donc actuellement, il y a combien de femmes qui sont souffleuses de verre par rapport aux hommes ?
Ça dépend vraiment des pays, et du coup ça dépend de la culture et de l'histoire que le pays entretient avec ce savoir-faire. Ouais, du coup, en France, en fait, il faut peut-être distinguer, disons, les femmes qui ont appris le soufflage de verre et qui n'en font pas forcément leur métier aujourd'hui, et les femmes qui, bah, comme moi, ont leur propre atelier. Et ça, en fait, c'est un step supplémentaire aussi qui convoque d'autres problématiques, comme celle de l'entrepreneuriat notamment, l'entrepreneuriat en tant qu'artiste. Donc voilà, je n'ai pas de chiffres exacts, mais en tout cas, voilà, moi, je sais que des consoeurs, j'en connais une dizaine.
D'accord.
C'est tout. Ok, je pose des questions. Du coup, je vais prendre la suite. Alors moi, j'avais des questions plutôt déjà sur l'aspect physique. Quelles sont les méthodes de soufflerie ? Est-ce qu'il existe différentes méthodes pour souffler, par exemple, le verre ? Et enfin, quelles sont les conditions physiques ? Parce qu'il fait quand même très chaud.
Alors en effet, il fait très chaud près des fours, donc je le précise, moi je transforme le verre et il est à 1150 degrés. Et puis ensuite dans une palette de température, mais qui descend quasiment jamais en dessous de 600 degrés, à 500 degrés, moi je dis que le verre est froid. Donc en effet, il fait très chaud. Bon, moi j'ai toujours été frileuse, donc pour le coup c'est pas tant un frein. Pour essayer de vulgariser le plus possible ce que je fais avec mon corps, moi généralement je dis que j'ai un métier qui se rapproche beaucoup plus d'une pratique de la danse, parce qu'en fait il faut vous imaginer que c'est une matière qui coule, donc en fait on la sort du four au bout d'une longue tige qui est la canne, et c'est comme si vous vous serviez du mel liquide dans votre peau et que vous vouliez vous faire une tartine, si vous tournez pas la cuillère ça va couler au sol, et bien c'est exactement la même chose. Donc nous on doit défier cette gravité en permanence par un mouvement de rotation de la matière. Donc tous nos mouvements dans l'atelier, on se lève, on se rassoit, on porte, on tourne, on balance la canne, tout ça on le fait en maintenant un mouvement de rotation. Donc en fait je porte beaucoup, j'ai un entretien physique quotidien, mais qui est beaucoup plus lié à une forme de chorégraphie que j'ai appris à mon corps qu'à véritablement mon souffle. Moi j'ai un petit frère qui a pratiqué la trompette et du coup je peux vraiment comparer, lui il a une vraie maîtrise de son souffle en fait. Quand on souffle le verre, ça intervient à des moments très précis, et du coup c'est comme souffler dans un ballon. Donc on a accueilli beaucoup de stagiaires et d'apprentis à l'atelier, majoritairement des femmes d'ailleurs, et parfois elles sont complètement néophytes et on peut les faire souffler dans la canne sans problème, il n'y a pas de compétences particulières véritablement.
Et est-ce qu'il y a des différences entre hommes et femmes dans la façon de souffler, ou est-ce que c'est juste une question de personnalité ? Est-ce que chacun a une façon particulière de souffler le verre ?
Alors, je pense que chacun a une façon particulière de souffler le verre, mais par contre, on apprend tous et toutes la même chorégraphie. Aussi parce que c'est un métier qui, au 19e siècle, a été énormément taylorisé de par les manufactures cristallières. Et donc, ça a été découpé en un certain nombre de gestes qu'on se doit d'apprendre aussi pour être en capacité de travailler en équipe. C'est un travail qu'on ne peut pas performer seul, quasiment pas. Donc, moi, j'ai un associé. Et puis, voilà, en fait, on forme vraiment un binôme. Et à chaque fois qu'on intègre quelqu'un de nouveau dans l'atelier, enfin voilà, il faut le faire rentrer dans la danse. Voilà. Et je pense que la différence, en tout cas, que je constate au sein de mon propre atelier, c'est dès lors qu'il faut faire des gros volumes, parce que du coup, c'est porter des charges très très lourdes à l'extrémité d'une tige. Donc il y a un espèce de bras de levier et il faut maintenir cette masse en rotation. Donc une pièce qui va faire 1,5 kg à l'arrivée, il y a une perception de, je sais pas, j'ai pas la conversion, mais peut-être plus de 3 kg au bout de la canne, et il faut la maintenir en rotation en permanence. Et en fait, le but en soi n'étant pas juste de la porter, et le but en soi étant de former quelque chose avec. Donc voilà, c'est plutôt des qualités d'attention, j'aurais tendance à dire. Je sais pas si on peut vraiment genrer le résultat. Là, pour le coup, c'est vraiment propre à chaque artiste et créateur. Ouais.
D'accord. Et est-ce que vous travaillez, par exemple, avec les défauts du verre, par exemple, les bulles qui apparaissent ? Enfin, voilà, comment ça se passe ?
Oui, complètement. Alors ça, c'est vrai que c'est quelque chose que je me permets de faire au sein de mon propre atelier, parce que je produis mes propres créations. Alors la bulle, c'est un défaut naturel. C'est un défaut, je mets des gros guillemets, bien sûr. Mais donc, c'est un effet naturel du verre. Lorsque, en fait, on met tous les composés pour faire le verre en fusion, ben, c'est une très grosse base de sable, et ben ça génère des bulles. Et donc, on appelle ça l'affinage. Et faut imaginer comme une casserole qui boule. Les bulles, elles vont remonter à la surface et éclater. Et du coup, ben, on retrouve des bulles dans ce bain de verre. La standardisation a fait que maintenant, on considère que ce sont des défauts, mais il y en a naturellement dans le verre. Moi, aujourd'hui, en 2026, j'estime que ça participe tout autant du projet artistique. Après, ça va bien sûr dépendre des projets et des clients, s'il y a des contraintes, on va dire, de fragilité liées à ces bulles, mais en tout cas, je ne les considère pas comme des défauts.
D'accord. Et je voulais savoir, parce que vous parlez de votre atelier, il se trouve où cet atelier ?
Alors, mon atelier de soufflage, il se trouve en Bourgogne, en Côte d'Or, dans un tout petit village qui s'appelle Mont-Saint-Jean. C'est un atelier qui est volontairement discret parce qu'il est, il est pas ouvert au public. On n'a pas du tout d'activité touristique. On a vraiment une activité tournée autour de nos propres créations. Et ça fait presque 4 ans maintenant que j'ai un point d'ancrage à Paris, mais uniquement pour la partie studio de création en design.
Ok. Et est-ce que vous utilisez des moules pour souffler le verre quand vous créez, par exemple, quel type de... Est-ce que vous utilisez d'autres matériaux que le verre en lui-même, on va dire ?
Oui.
Ou que le sable, on va dire.
Oui, oui, tout à fait. C'est vrai que donc on peut souffler le verre, ce qu'on appelle à main levée. Donc en fait, on vient avec différents outils donner la forme à la bulle. On va être cependant quand même assez limité par la mollesse naturelle du verre. Vous pouvez vraiment imaginer un ballon de baudruche qui se gonfle et vous qui essayez de le contraindre en quelque sorte. Et donc en fait, si on souhaite complexifier les formes ou si on souhaite aboutir à une forme très précise, on va travailler avec des moules. Donc en effet, à l'atelier, on travaille beaucoup avec des moules en bois. Ça surprend souvent quand j'en parle parce que le bois au contact du verre, ça brûle. Mais donc c'est des moules qu'on plonge dans l'eau et on les sort simplement au moment de souffler dedans. Donc à ce moment-là, il y a une vapeur d'eau qui se dégage immédiatement et qui forme une espèce de paroi, on va dire, entre le bois et le verre, et ensuite il retourne dans l'eau. Mais oui, du coup, ça nous arrive de manipuler beaucoup plus de matériaux. Et je ne l'ai pas précisé, mais c'est vrai que nos productions sont très orientées autour de la décoration d'intérieur au sens large. Donc l'art de la table, un petit peu, mais finalement beaucoup plus le luminaire. Et donc en fait, à l'atelier, on développe aussi beaucoup de choses autour du travail du métal, du laiton, de l'électricité. Donc oui, on est aussi un peu touche à tout.
Justement, j'allais vous demander quelles étaient vos inspirations en général pour vous dites que vous faites vos propres créations. Qu'est-ce qui vous inspire ?
Moi, je suis très inspirée par, ça va vraiment être un marronnier, mais on va dire les phénomènes naturels au sens large. On construit des collections à l'atelier, ce qui nous permet, on n'est pas du tout sur le rythme effréné de la mode, hein, c'est tous les 2 ans, voire plus, mais ça nous permet véritablement d'entrer dans une thématique visuelle qu'on s'est fixée, dans toute sa palette visuelle. Donc, on fait beaucoup, beaucoup d'échantillons. Et si je vous donne quelques exemples, notre deuxième collection, elle s'appelait Aube, et elle été inspirée des vues astrales. Moi, depuis enfant, j'ai mon père qui me montrait ces vues de la NASA qui étaient publiées de façon journalière. Et donc, en fait, avec des couleurs de verre, on a essayé de traduire ces vues planétaires, notamment. Et ensuite, on les a traduits dans des typologies d'éclairage luminaire, etc. En revanche, et ça peut-être que c'est dû à mon genre, je ne sais pas, mais... Le soufflage de verre, c'est quand même quelque chose qui est extrêmement démonstratif. Déjà dans sa prestance, si vous avez eu la chance de le voir en démonstration, c'est quasiment parfois assimilé à un spectacle. Il fait chaud, c'est une matière en fusion incandescente. Et dans son histoire, elle est même... Elle est présentée comme une matière avec des couleurs extrêmement saturées parfois. Enfin voilà, il y a beaucoup de courants qui l'ont un peu fait entrer dans ce genre de carcan. Et c'est vrai que moi, je suis finalement très très sage, notamment autour de la palette colorée et même dans le langage formel. J'ai quand même tendance à traduire des phénomènes naturels, mais aussi dans leur apparente simplicité. J'ai un travail, je crois, très peu démonstratif et peut-être, en tout cas, je l'espère, beaucoup plus poétique.
Et d'une manière, d'un point de vue très pragmatique, pour réussir à vivre de ce que vous faites, parce que c'est un métier donc de plus en plus rare, à la fois c'est très de l'artisanat hyper précieux, mais est-ce qu'il faut des clients qui forcément ont un peu d'argent, parce que tout le monde ne peut pas s'offrir une pièce réalisée par une souffleuse de verre. Donc voilà, vous travaillez peut-être avec des hôtels, avec quels sont vos clients en général pour espérer gagner aussi un salaire à la fin du mois et survivre depuis 4 ans aujourd'hui.
Oui. Alors nous, l'atelier, il a été fondé en 2017. Donc on est deux associés, on a une salariée à temps plein, et puis on fait venir. Enfin voilà, on a eu une apprentie. Ça nous arrive même d'avoir des freelances sur des temps courts sur certains projets. Donc ouais, c'est un atelier qui tourne beaucoup et du coup qui amène la question du management et ce genre de choses auxquelles je ne m'étais pas du tout préparée. En effet, et ça c'est la réalité de cette grande famille qu'on appelle les métiers d'art, donc c'est-à-dire l'artisanat qui transforme la matière selon des savoir-faire traditionnels et dans une forme de préciosité artistique, c'est que en fait ce temps de travail, parfois c'est la matière première, dans notre cas c'est pas tant la matière première qui coûte cher, c'est véritablement le temps de facture, et donc en effet ça donne lieu à des objets en fait qui coûtent très cher, mais ça m'amène aussi moi beaucoup à m'interroger sur comment on fait du coup pour parfois voir des objets qui sont fabriqués par des gens qui ont exactement le même métier que moi, et je le reconnais à véritablement l'esthétique de l'objet et me rendre compte que c'est un prix qui est impossible dans ma conception. Et puis parfois je remonte le fil et puis je me dis oui, en plus cet objet a peut-être traversé la planète une voire deux fois, il est passé par je sais pas combien d'intermédiaires, donc en fait dans tous les cas il y a un problème quelque part, et peut-être que le problème il n'est pas tant sur le niveau de prix en France mais plutôt sur les conditions de fabrication ailleurs. Voilà, c'est une petite parenthèse. Et donc du coup oui, mes clients ce sont beaucoup plus des professionnels, j'ai assez peu de projets avec des particuliers parce qu'en fait à ce niveau de prix il y a des intermédiaires, notamment des architectes d'intérieur. Et après, je travaille aussi pour des maisons de luxe, parce que là, on a cette double identité de studio de design et d'atelier de fabrication. Et donc, ça nous permet aussi de porter des projets où on va concevoir des éléments pour des maisons de luxe sur des projets par exemple, de présentation de vitrine, ce genre de choses.
Peut-être juste, si j'ai le temps, pour une dernière question. Est-ce que vous estimez que la soufflerie de verre est assez mise en valeur dans ces métiers d'artisanat aujourd'hui, ou c'est plutôt un peu la petite brebis galeuse qui est dans le fond de la cour on en parle, enfin, quand on voit, moi j'ai vu seulement des reportages sur les réseaux, c'est vrai que c'est assez impressionnant, mais vous le disiez tout à l'heure, et ça se compte parfois sur les doigts d'une main. Est-ce que c'est assez mis en valeur, assez soutenu, assez valorisé ?
Alors c'est en effet un métier d'art assez niche, je pense très peu connu. Si je fais le pendant avec la céramique, effectivement, j'ai vraiment beaucoup, beaucoup plus de consoeurs qui sont céramistes et ça évoque quelque chose à tout le monde. Après, on a quand même eu des petits moments de gloire. Il y a deux ans, les gestes verriers ont été inscrits au patrimoine immatériel de l'UNESCO. Et ça a été une candidature de plusieurs pays, mais notamment portée par la France. Donc voilà, mais en effet, c'est aussi pour ça que je suis là ce soir. Je pense que la médiation autour de notre savoir-faire, elle participe aussi à créer des nouvelles vocations et même à acculturer un public, pas uniquement à des objets, mais aussi aux gens qu'il peut y avoir derrière.
Merci beaucoup Eve-Georges, merci beaucoup Eve et Augustine pour cette interview de Métier au féminin. C'était la dernière matinale de cette semaine consacrée aux droits des femmes. Merci à Hélène pour l'interview, Iske pour les recommandations, Hortos pour sa chronique actu et Eve pour C'est quoi ton taf ? C'était Julie Alléréal pendant toute l'émission. Merci à toi. Et surtout, n'oubliez pas, dimanche 8 mars, tous et toutes dans les rues pour faire vivre les combats féministes et lutter pour l'autodétermination des corps et des peuples. C'était Alice à la présentation. À bientôt sur le 93.9 FM.